Alors Lise, ce matin, dans la philo des super-héros, eh bien, on va s'intéresser à une question. Les héros de la Bible préservent-ils l'environnement ?
Ben oui, parce que exceptionnellement aujourd'hui, j'ai un invité pour parler des héros et c'est Jonathan Eichenbaum qui est directeur de Greenpeace Israël. Bonjour Jonathan.
Bonjour Lise, bonjour à tous.
Et Jonathan a écrit un livre qui s'appelle « L'écologie de la Genèse ». Jonathan, de quelle personnalité, de quel héros du livre de la Genèse vous traitez dans ce livre ? Adam, Abraham, racontez-nous.
Alors, en fait, à peu près tous. Mais alors, c'est sûr que le livre de la Genèse, quand on parle de traiter des questions d'environnement, de ces problématiques-là, alors c'est idéal, c'est un terreau qui est extrêmement riche. Et puis le personnage qui s'impose très naturellement, c'est le personnage de Noé, de Noah, puisque lui, bah, évidemment, il fait un geste très fort pour la planète, puisqu'il sauve l'ensemble des animaux. Alors des plantes, on ne nous en parle pas, mais il sauve l'ensemble des espèces, il les met toutes sur l'arche quand il y a le déluge. Mais alors ce qui est fascinant, ce qu'on découvre à travers ces différents personnages, c'est en fait qu'il y a toujours des problématiques qui sont un petit peu complexes. Alors, prenons l'exemple de Noé, si déjà on est sur cette lancée. Noé fait ce geste absolument incroyable de sauver l'ensemble des espèces animales. Il les met toutes sur une arche. Et d'ailleurs, c'est un exemple qui est repris depuis à travers le monde des scientifiques et des communautés qui cherchent à préserver les espèces qui sont soumises actuellement à des pressions absolument incroyables. Et alors, Noé se retrouve sur l'arche avec toutes ces espèces et tous ces animaux. Et puis, la première chose qu'il fait quand le déluge se calme, c'est qu'il va voir si l'eau a baissé. Et quel animal il envoie, Lise, pour vérifier s'il n'y a plus d'eau sur le déluge, si le déluge s'est calmé? Vous vous souvenez?
La première fois ou la deuxième? Le corbeau ou la colombe?
La première fois. Exactement, le corbeau et la colombe. Et alors, je ne me suis jamais posé la question jusqu'à ce que pourquoi d'abord le corbeau et ensuite la colombe, jusqu'à ce que je sois tombé sur un texte du traité Sanhedrin, donc du Talmud du traité Sanhedrin, Glagmara, qui parle de cette question et qui nous décrit le dialogue qu'il y a eu entre le corbeau et Noé. Et puis le corbeau dit à Noé, mais dis donc, toi tu me détestes, hein, parce que, alors Noé dit, mais pourquoi je te déteste? Il dit, eh bien parce que les espèces, tu as reçu l'ordre par Dieu de mettre un couple de chaque espèce animale sur l'arche, et donc tu m'as mis moi le corbeau avec mon épouse, et puis c'est tout. Et par contre, il y a des espèces pures, comme la colombe, et ces espèces-là, eh bien, tu as reçu l'ordre d'en prendre 7 couples sur l'arche. Eh bien, tu as décidé néanmoins pour cette mission dangereuse d'envoyer une espèce dont il y a un seul représentant de chaque sexe. Si je me prends un coup de chaleur ou un coup de froid, eh bien le monde, il manquera une espèce au monde. Eh bien Noé a compris cette leçon qu'il a reçue du corbeau, il a repris le corbeau dans l'arche et il a envoyé la colombe qui au bout de la troisième tentative a disparu. Voilà ce qu'on apprend, une histoire fascinante qui nous montre à quel point quand on a même cette tendance et cette volonté de préserver le monde et de contribuer à sa préservation, eh bien toujours il y a des points où ça peut faiblir, où cette conscience peut nous lâcher.
Alors, on comprend bien, Jonathan, que dans votre livre, il y a deux pôles de l'identité humaine, ceux qui sont pour préserver le monde et ceux qui sont plutôt pour l'exploiter. De quel côté sont les héros de la Bible ?
Alors, il y a une tentative, on va dire, qui se retrouve à travers une espèce de lutte pour l'identité humaine, que de grands penseurs, notamment de grands penseurs juifs, ont traité de cette question, de cette tension de l'identité humaine, notamment au XXe siècle, le Rav Soloveitchik et Manitou, le Rav Yehuda Ashkenazi, qui en ont énormément parlé, ce pôle qui existe, cette tension qui existe, par exemple, entre Caïn et Hevel, entre Yaakov et Esav, et cette tension qui est au départ entre eux, qui se trouvent déjà au départ dans le premier homme, dans Adam Harishon. Puisque Adam Harishon reçoit de Dieu deux ordres, ou on va dire deux brachot, c'est-à-dire deux bénédictions qui sont contradictoires. Une bénédiction qui lui dit, eh bien, vous allez croître, multiplier, et vous allez quelque part posséder la terre, vous allez l'exploiter. Et puis, une deuxième proposition, on va dire un deuxième commandement qui est, eh bien, vous allez préserver la terre, ce qu'on appelle en hébreu au deuxième chapitre, le Ovda Olishandra. Et il n'y a pas de contradiction, mais il y a plutôt deux pôles, en fait, on va dire deux pôles de l'identité humaine. Et ces deux pôles de l'identité humaine existent à la fois au sein de chaque personne, depuis Adam et Harishon, elle se retrouve au sein de chaque être humain. Et puis, l'idée, on va dire, un petit peu de la Bible, l'idée de la Torah, c'est de faire germer cette identité humaine qui est une identité humaine profondément morale, et c'est une identité humaine qui, en fait, fait deux choses qui sont la même chose. Elle préserve la nature et la nature humaine, en fait, en même temps.
Alors, dans ce livre, Jonathan, vous parlez aussi des relations qu'il y a entre l'éthique et la technologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Alors ça, ce sont des différents héros, et le héros de cette histoire, c'est un petit peu Abraham, puisque à l'époque de la tour de Babel, après le déluge, en fait, les communautés là-bas se sont organisées, elles ont construit cette tour pour échapper à un futur déluge, et puis elles sont entrées dans un délire technologique total, en voulant construire en fait un gratte-ciel, une tour qui irait jusqu'au ciel. Et le Midrash nous raconte au sujet de ces constructeurs de tours qu'ils étaient tellement obsédés par leur but technologique qu'ils avaient oublié pourquoi ils la construisaient, qu'ils avaient oublié tout ce qu'il y avait à côté. Et le Midrash nous raconte que ils construisaient cette tour en briques. Quand un homme tombait d'un échafaudage et se tuait, eh bien, il ne faisait même pas attention. Par contre, quand une brique échappait aux mains d'un des ouvriers et tombait en bas, eh bien, les autres ouvriers s'asseyaient, pleuraient et disaient « Mais qui nous montra donc une brique à la place de celle qui est tombée ?» Et donc, voilà, cette histoire nous montre un petit peu parfois cette volonté qu'on a de poursuivre des buts. Ça va être des buts technologiques, ça va être des buts de croissance. Ça va être parfois même des buts de bien-être, c'est pas nécessairement négatif, mais vis-à-vis de ces buts, on ne fait pas attention au chemin. Et qu'est-ce qui permet de faire attention au chemin ? Eh bien, c'est ce qui va se passer avec la tour de Babel, c'est-à-dire c'est de confondre les langues, c'est de permettre aux gens de parler une langue différente, et puis en confrontant les idées, eh bien, on se rend compte qu'il y a des choses sur le chemin. Eh bien, il y a des plantes, il y a des hommes, et il y a toute cette création qu'on doit préserver, même si on souhaite avancer.
Alors, justement, cette tradition de préservation de l'environnement, Jonathan, vous la faites remonter à la Genèse, et donc on comprend bien qu'elle est censée faire partie intégrante, on va dire, du corpus de l'identité juive et de ce qu'on a reçu. Et pourtant, on voit à quel point en Israël, aujourd'hui, cette tradition de préservation de l'environnement, elle n'est pas si forte que ça. On le voit dans la multiplication des déchets, l'utilisation des plastiques, et c'est juste un petit exemple. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous qui dirigez Greenpeace Israël.
Oui, alors là, par rapport à ça, et notamment par rapport à la place du judaïsme, c'est vrai qu'il y a une interrogation qui se fait, puisque notamment au niveau des partis religieux, au niveau de tous ces gens-là, quelque chose qui est important pour eux, c'est d'avancer, on va dire, le caractère juif de l'État d'Israël. Et on se met à faire des travaux le Shabbat, par exemple, sur des trains ou des travaux publics, ça ne passe pas tranquillement. Mais par contre, quand on abat des arbres par dizaines de milliers, alors ça, c'est comme si rien ne se passait. Eh bien, on peut donner à ça plusieurs explications. Pour ma part, je crois que il y a eu un phénomène très fort, notamment dans le phénomène de l'exil, puisque à la suite de l'exil, les Juifs ont eu beaucoup moins de contact avec la terre, pas nécessairement avec la nature, mais avec la terre. Et l'exode rural, en fait, le fait de passer dans les villes, les Juifs ont habité les villes beaucoup plus tôt. Ils avaient très souvent pas le droit de pratiquer l'agriculture. Et tout cela a fait que la halakha, la législation juive, a accompagné en fait ce qui s'est passé au niveau du peuple juif, au niveau sociologique et politique. Et elle s'est concentrée sur des questions qui n'étaient pas des questions d'environnement. Et donc on arrive en Israël, on revient en Israël, et on a par rapport à ça une question juive environnementale qui est très peu présente. Et si vous rajoutez à ça qu'Israël est une société qui vit sous dans une ambiance qui est toujours très portée sur les questions de sécurité, eh bien, comme tous les pays qui sont très portés sur les questions de sécurité, c'est encore plus difficile de préserver l'environnement, tant au niveau des politiques générales et des grandes orientations du gouvernement qu'au niveau du comportement individuel.
Est-ce que vous avez l'impression, Jonathan, tout de même qu'il y a eu des progrès qui ont été faits ces dernières années dans la mentalité peut-être des Israéliens ?
Il y a des progrès énormes qui sont faits, également chez les populations, religieuses et charélites, à tous les niveaux. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que très souvent, on regarde l'environnement d'une certaine manière. Par exemple, on dit, ben voilà, l'utilisation des déchets, enfin, les déchets plastiques, etc. Mais par exemple, vous prenez une population comme la population Haredite en Israël. Alors, d'un côté, c'est vrai qu'elle utilise du plastique jetable. On a beaucoup de familles nombreuses, donc ils utilisent ça à volonté et à gogo. Et bon, forcément, c'est quelque chose qui n'est pas positif pour l'environnement. Mais par contre, c'est une population qui recycle énormément des tas d'autres choses. Comme les habits, c'est une population qui voyage très peu, qui voyage la plupart du temps en transport public. Et donc, finalement, quand on regarde, on va dire, l'empreinte environnementale, il faut regarder la totalité. Et là, on se rend compte que les choses sont un peu plus compliquées. Et en tout cas, il y a un progrès énorme qui a été fait. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, a pris ce sujet-là à bras-le-corps, et c'est quelque chose d'absolument remarquable. Et donc, on est vraiment dans des avancées importantes.
Et ma dernière question, Jonathan, est-ce que vous avez eu des surprises? Est-ce que vous avez trouvé pour la préparation de ce livre des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas?
Oui, absolument. Alors, il y a eu des tas de surprises. Par exemple, je pense que la plus grande surprise, ça a été de constater à quel point le judaïsme, en fait, considérait qu'il fallait corriger la notion de propriété chez l'homme, que l'homme a une espèce d'obsession qui se crée naturellement de la propriété privée, et que le judaïsme cherche au contraire à équilibrer entre propriété privée et propriété publique, et que à côté de la conscience d'avoir des choses qui nous appartiennent de manière exclusive, on doit développer cette conscience, et bien qu'il y a des choses comme la planète en fait, et toute la nature, et tout ça qui nous appartient à tous, et qui donc crée une responsabilité collective.
Merci beaucoup Jonathan Eichenbaum d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur de Greenpeace Israël et auteur de L'écologie de la jeunesse, qui pour l'instant n'est pas encore traduit en français, sauf erreur de ma part.
Exactement, mais j'y travaille, et pour l'instant voilà, je suis à la recherche également de fondations qui permettraient d'aider pour la traduction, et la traduction en anglais et en français sont parmi mes priorités.
Eh bien, on attend ça avec impatience. Merci, bonne journée à vous Jonathan.
Merci Elise, bonne journée.